Yves Duteil, c'est un grand classique, hein, ça a connu énormément de succès. Mm-hmm. Et Serge, vous aviez envie d'offrir cette chanson à nos auditeurs et auditrices avant de proposer cette chronique écrite par un diplomate.
Oui, Raoul Delcorde, qui a été ambassadeur de Belgique au Canada. Et il est également coordonnateur du groupe des ambassadeurs francophones à Ottawa. C'est une expression, on dit que l'auteur s'exprime à titre personnel. C'est dans Le Devoir de 2016. Quelqu'un m'a envoyé ça en disant que ce serait intéressant pour une de mes chroniques.
On salue ce quelqu'un.
Oui, alors c'est dans la section Opinion du Devoir. Et alors, à l'Assemblée générale de l'ONU, on entend des discours prononcés souvent en français. Et le français demeure la langue officielle ou co-officielle d'une trentaine d'États souverains. Et plus que d'autres langues, le français a été l'instrument dans l'organisation des relations internationales. Le français, dit-on, est la langue de la diplomatie. Cela tient au fait qu'il se substitua au latin à partir du 18e siècle pour la rédaction des traités internationaux. Et historiquement, le premier traité international exclusivement en français, c'est le traité de Ratzdat en 1714 qui met fin à la guerre de succession d'Espagne. On sait que dans ce traité-là, la France perdait une partie de ses colonies, donc une partie des territoires ici en Nouvelle-France, dans les Maritimes. Il ne faut pas y voir le résultat d'une prédominance politique de la France à cette époque, mais bien la reconnaissance du rayonnement culturel de la langue française. On parle le français dans la plupart des cours d'Europe au 18e et 19e siècle. C'est en français que se déroulèrent les négociations du Congrès de Vienne en 1815 après la chute de Napoléon. Mais le chancelier autrichien Metternich expliqua qu'il fallait une lingua franca.
Lingua franca.
Oui, pour la diplomatie et que le français jouait bien ce rôle. Lingua franca, j'ai regardé la traduction, signification, c'est langue occidentale ou langue véhiculaire. Parce que, imaginez-vous, vous mettez à une même table un Russe, un Français, un Italien, un Espagnol, et chacun parle seulement sa langue, vous ne vous comprenez pas.
C'est sûr.
Alors, si vous avez une langue commune, ben là, à ce moment-là, vous l'apprenez, puis là, tout le monde se comprend.
Alors, la langue commune, c'était?
C'était le français, à ce moment-là. Évidemment, la diplomatie française mit en avant la clarté de cette langue, et même le très renommé diplomate britannique Harold Nicholson dit en 1939 l'éloge du caractère logique et de la précision géométrique. Ce sont ses termes.
Ah ouais.
Précision géométrique, là, petit point d'interrogation, et de la langue française. Plus étonnant peut-être, le français est, au 19e siècle, la langue de travail des diplomates ottomans dans l'Empire turc. Même la pratique diplomatique est influencée par le français. On relève que certains termes propres au langage diplomatique ont été transposés tels quels en anglais. Chargé d'affaires ou encore agrément, il n'en existe pas d'équivalent en anglais, alors ils les ont empruntés à la langue française. Le déclin du français comme langue diplomatique date de la conférence de Paris en 1919, après la Première Guerre mondiale. Il fut décidé, lors de cette conférence, d'adopter l'anglais à côté du français comme langue de travail et le traité de Versailles fut rédigé dans les deux langues. Mais en cas de divergence, seul le français faisait loi. Parce qu'on se souvient que...
En 1919, oui.
Les Américains avaient apporté une grosse contribution à la Première Guerre mondiale. C'est grâce à eux-mêmes que les Alliés ont remporté la guerre sur l'Allemagne. Alors, il fallait bien leur rendre la politesse, peut-être, là, si je peux m'exprimer ici. Alors, cela s'expliquait par la présence de pays non européens à la table des négociations, d'autant que le président Wilson ne parlait pas du tout le français. Jusque dans les années 1960, le français occupait encore une place importante dans les négociations diplomatiques. Ce n'est plus le cas. Il est bien souvent détrôné par l'anglais. Certes, il reste l'une des langues de travail de la Commission européenne et une des langues officielles à l'ONU. Il est l'une des deux langues officielles de la Cour internationale de justice. Il est la langue de travail de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais il perd du terrain. Pourtant, sa précision en fait une langue convenant bien à la négociation internationale. Qu'on se souvienne de l'ambiguïté célèbre de la résolution 242 de l'ONU sur le Moyen-Orient. En anglais, on y mentionnait les « occupied territories ». Mm-hmm. S'agissait-il des territoires occupés par Israël et qu'Israël devait évacuer en totalité, ou de territoires occupés, ce qui n'aurait porté que sur certains d'entre eux, point d'interrogation. Alors, l'imprécision de l'anglais ouvrait la porte à toutes les interprétations. Dans la même veine, Yasser Arafat utilisa le mot « caduc » qui lui a été soufflé par Roland Dumas à l'époque où il fut ministre des Affaires étrangères, lors d'une interview à Paris en mai 1989, pour expliquer que la disposition figurant dans la charte de l'OLP au sujet de la destruction d'Israël était dépassée. Le mot « caduc » n'existe pas en arabe, et Arafat préféra recourir au terme français, qu'il prononça d'ailleurs « caduc », C-A-D-O-U-Q. Naguère, tout diplomate européen parlait le français. Aujourd'hui, son recul est peut-être lié au nombre décroissant de dirigeants internationaux francophones. Bon, il y a eu Boutros-Ghali à l'ONU et Jacques Delors à la Commission européenne, mais de nos jours, les dirigeants parlant spontanément le français sont rares. On peut même citer Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, et Christine Lagarde, directrice générale du FMI. N'oublions pas toutefois qu'en matière de diffusion sur les 5 continents, le français arrive en seconde position après l'anglais. Et comme l'a souligné Jacques Attali, l'avenir du français sera en Afrique. La vitalité politique et économique de l'Afrique francophone est sans doute un vecteur puissant de la préservation de la langue française comme grande langue diplomatique aujourd'hui et demain. Et la clarté de la précision de la langue française devrait lui préserver sa place dans les grandes organisations internationales. Et deux petits sujets là, qui me sont revenus en tête hier soir. Quand j'ai commencé comme comédien dans les années 70, je vais parler avec des comédiens qui avaient joué au Théâtre du Rideau Vert, une pièce qui est allée présenter en Russie.
Oui.
Et en Russie, ben, jusqu'à l'époque tsariste, la cour parlait français. Et donc, vous aviez à ce moment-là des vieux Russes qui sont allés voir la pièce, je pense que c'était un Marivaux.
Vous ne faisiez pas partie de la troupe en voyage?
Non. On était bien trop jeune. J'aurais aimé ça. Je n'étais même pas encore aux études en théâtre. Et les gens âgés russes étaient allés voir les comédiens après ça du Rideau Vert et pleuraient. En disant, écoutez, c'est tellement beau, on n'entend plus du français ici.
Oh, ouais. Il y avait une nostalgie.
Ouais. Et autre petite anecdote, Wellington, je pense à Wellington à la bataille de Waterloo, qui a défait Napoléon. Wellington chapeautait les armées coalisées, Prusse, Russe, Autriche, contre Napoléon. Et il donnait ses ordres en français, c'est un anglais, il donnait ses ordres en français, parce que les Russes n'auraient pas compris l'anglais, les Autrichiens n'auraient pas compris.
C'était vraiment la langue commune.
La langue commune, oui.
Ouais, dommage hein, que le français ait perdu des plumes,
Beaucoup.
Merci beaucoup, Serge.